délivrer d'Emmanuel que je veux. Car il a prévu un temps. Il a prévu un temps. Il a prévu un temps où, Seigneur notre roi, les pleurs des hommes vont cesser. Emmanuel a prévu un temps où la consolation de l'homme sera palpable. Emmanuel a prévu un temps où la consolation de l'homme sera du vécu. Emmanuel a prévu un temps où la consolation de l'homme sera réelle, où la consolation de l'homme sera vraie, où la consolation de l'homme sera totale. Alors je soupire encore après ces temps. Alors je désire encore après ces temps. Alors j'ai encore besoin de ces temps. Alléluia. Et si ça tarde d'aller au ciel, sur la terre, Emmanuel a prévu un temps. La souffrance ne régnera pas toujours. Comme les ténèbres ne régneront pas toujours, la souffrance ne régnera pas toujours. Il y a un temps prévu par Emmanuel pour venir au secours de celui qui pleure. Il y a un temps prévu par Emmanuel pour venir au secours de celui qui est en détresse, pour venir au secours de celui qui est en danger, pour venir au secours de celui qui est au fin fond. J'irai là-haut. Auprès d'Emmanuel, j'aurai ma consolation. Auprès d'Emmanuel, j'aurai ma consolation. Sur la terre, tout est réuni pour faire pleurer un homme. Sur la terre, toutes les occasions sont présentes pour qu'un homme pleure, pour qu'un homme gémisse. Mais là-haut, tous les moyens sont aussi réunis pour qu'un homme soit dans des conditions idéales. Alléluia. Et tes moyens, tu ne les réserves pas seulement au ciel, tu les donnes sur la terre. Les moyens de Dieu n'est pas seulement dans les cieux. Les moyens de Dieu, il les pourvoit également sur la terre. Alléluia. Ainsi, ceux qui se confient à toi peuvent être heureux, car Emmanuel pourvoit les situations. En t'acclamant, Seigneur, nous te disons merci. Dire à Jésus un grand merci. Dire à Jésus un grand merci. Est-ce que quelqu'un peut dire à Jésus un grand merci? Est-ce que quelqu'un peut dire à Jésus, à Emmanuel, celui qui peut les consoler, il peut dire un grand merci. Dire à Emmanuel un grand merci. Dire à Emmanuel un grand merci. Alléluia. Dire à Emmanuel un grand merci. Dire à Emmanuel un grand merci. Alléluia. Alléluia. Sur la terre, toutes les conditions sont réunies pour que l'homme pleure. Mais également, le ciel a disposé tous les moyens possibles pour que l'homme soit dans la joie. Et ces moyens du ciel ne s'arrêtent pas là-haut. Ces moyens, ils nous les précèdent sur la terre. Nous avons les moyens du ciel sur la terre et le ciel nous réserve un autre moyen. Je soupire aller auprès du Seigneur. Alléluia. J'irai là-haut auprès du Seigneur. Est-ce que quelqu'un soupire cela avec moi? Nous disons à Jésus un grand merci. Et là-haut, nous le dirons à perpétuité. Nous le dirons à perpétuité. Éternellement, un grand merci à Jésus. Waouh. Shalom, peuple de Dieu. Nous sommes très heureux de nous retrouver dans la présence du Seigneur cet après-midi, cet avant-midi, dirais-je, dans ce second service. C'est pour nous une grande joie d'être dans la présence de Dieu ce matin. Amen. Nous disons donc merci à Dieu qui ne cesse de me supporter. Je dis donc merci à Dieu qui ne cesse de me prendre en charge. S'il y a des hommes qui ont été pardonnés suffisamment par Dieu sur la terre, j'en fais partie. J'ai été suffisamment pardonné par le Seigneur, suffisamment soutenu par le Seigneur pour me tenir devant vous aujourd'hui. Je lui dis également et je lui dis infiniment merci pour sa grâce. Et je dis merci à notre berger, à mon pasteur, pour la confiance qu'il manifeste à notre personne. C'est vrai, nous sommes faibles, mais il nous fait confiance en nous cédant sa chair qui est chère pour parler au peuple de Dieu. Et je lui dis grandement merci. Plusieurs peut-être ne le feront pas, plusieurs peut-être ne nous donneront pas confiance, mais lui il l'a fait. Un grand merci là où il est et merci à nous tous qui sommes là, que le Seigneur nous bénisse. Je disais que le Seigneur nous bénisse. Nous ouvrons nos Bibles, nous sommes dans 2 Samuel chapitre 13. Nous sommes dans 2 Samuel, le chapitre 2 Samuel chapitre 9, les versets 1 à 13. 2 Samuel chapitre 9, les versets 1 à 13. Nous lirons donc tous les chapitres, qui n'a que 13 versets. Si nous avons trouvé, nous lisons la parole du Seigneur au nom de Jésus. Je disais donc 2 Samuel chapitre 9, du 1er au 13e verset. David dit, « Reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan ?» Il y avait un serviteur de la maison de Saül nommé Tsiba que l'on fit venir auprès de David. Le roi lui dit, « Es-tu Tsiba ?» Et il répondit, « Ton serviteur. » Le roi dit, « N'y a-t-il plus personne de la maison de Saül pour que j'eusse envers lui de la bonté de Dieu ?» Et Tsiba répondit au roi, « Il y a encore un fils de Jonathan, perclus des pieds. » Le roi lui dit, « Où est-il ?» Et Tsiba répondit au roi, « Il est dans la maison de Makir, fils d'Amuel, à Lodébar. » Le roi David l'envoya chercher dans la maison de Makir, fils d'Amuel, à Lodébar. Et Mephibosheth, fils de Jonathan, fils de Saül, vint auprès de David, tomba sur sa face et se prosterna. David dit, « Mephibosheth !» Et il répondit, « Voici ton serviteur. » David lui dit, « Ne crains point, car je veux te faire du bien à cause, je vais te faire du bien à cause de Jonathan, ton père. Je te rendrai toutes les terres de Saül, ton père, et tu mangeras toujours à ma table. Et tu mangeras toujours à ma table. » Il, Mephibosheth, donc, se prosternant et dit, « Qu'est ton serviteur pour que tu regardes un chien mort tel que moi ?» Le roi appela Tsiba, serviteur de Saül, et lui dit, « Je donne au fils de ton maître tout ce qui appartenait à Saül et à toute sa maison. Tu cultiveras pour lui les terres, toi, tes fils et tes serviteurs. Et tu feras les récoltes, afin que le fils de ton maître ait du pain à manger. Et Mephibosheth, fils de ton maître, mangera toujours à ma table. » Or, Tsiba avait 15 fils et 20 serviteurs. Il dit au roi, « Ton serviteur fera tout ce que le roi, mon seigneur, ordonne à son serviteur. » Et Mephibosheth mangea à la table de David comme l'un des fils du roi. Mephibosheth avait un jeune fils nommé Mika, et tous ceux qui demeuraient dans la maison de Tsiba étaient serviteurs de Mephibosheth. Mephibosheth habitait à Jérusalem. Il était à Lodébar. Il habite désormais à Jérusalem, car il mangeait toujours à la table du roi. Il était boité des deux pieds. Seigneur, merci. Mephibosheth pourrait trouver cette faveur pour quitter de Lodébar à Jérusalem. Non seulement pour être un citoyen comme tout le monde, mais il entre dans la maison du roi pour manger à sa table. Ô Seigneur, cet homme qui était jadis abandonné, cet homme qui était auparavant négligé, cet homme qui était auparavant oublié, a trouvé une faveur auprès du roi, a trouvé une grâce auprès du roi. Et malgré son infirmité, la table du roi lui est réservée. Seigneur, malgré l'infirmité d'un homme ce matin, que la table du roi lui soit réservée. Je prie au Dieu de gloire que ta parole nous arrose, que ta parole transforme nos cœurs, afin que nous trouvions grâce auprès de toi. Merci pour cette parole que tu nous donnes ce matin, qu'elle trouve le chemin de nos cœurs et qu'elle nous fasse du bien. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Amen. Oui, nous faisons bien d'accueillir la parole du Seigneur en acclamant, en applaudissant. La parole de Dieu est digne, digne de confiance. La parole de Dieu est merveilleuse. Alléluia. La parole de Dieu est merveilleuse. Merveilleux Jésus. Comme thème, je nous propose, cet avant-midi, ce second service, je l'ai intitulé « Le repos de Mephibosheth ». Le repos de Mephibosheth. Nous venons de lire ces textes. Nous venons de lire tous ensemble cette histoire. Et le repos nous a été annoncé depuis longtemps. On a parlé du repos toute cette année. Il est question du repos. Il est question du repos. Je ne veux pas revenir à définir le repos comme il faut. Mais retenez ce matin que le repos est un temps de quiétude. Le repos est un temps de paix où l'homme quitte d'un point de sa vie pour aller à un autre point. Le repos, c'est un temps où l'homme change de situation, change de position. Il quitte un point pour aller à un autre point. Autrement dit, après le repos, ne peut pas être égal à avant le repos. L'on doit constater une nette différence entre avant le repos et après le repos. Alléluia. Car au milieu, il y a quelque chose qui s'est passé. Vous voyez, au milieu, il y a quelque chose qui s'est passé. Dans la vie de Mephibosheth, nous allons constater cette différence entre avant le repos et après le repos. Vous savez, la vie d'un homme est faite de saisons. La vie d'un homme est faite de saisons. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin, la saison que tu es en train de traverser ne sera pas la dernière saison de ta vie. Car après cette saison, il y aura encore une autre saison. Il y aura encore une autre saison. Il y aura encore une autre saison. Et une autre saison. Et une autre saison. Car dans la vie d'un homme, il y a succession de saisons. Dans la vie d'un homme, il y a succession de saisons. Je ne sais pas dans quelle saison tu es en train de traverser, dans quelle saison tu vis. Mais je suis venu t'encourager, te dire que cette saison n'est pas tout ce qu'il y a. La saison que tu traverses n'est pas tout ce qu'il y a. Car il y a encore une autre saison qui s'annonce. Mephibosheth pourrait pleurer. Mephibosheth pourrait verser des larmes. Mais il ne savait pas qu'après la saison qu'il était en train d'endurer, il y avait une autre saison qui était réservée pour lui. La vie d'un homme est faite de saisons. Et Mephibosheth est un exemple frappant. Un exemple frappant qui nous montre que la vie est faite de saisons. La vie est faite des étapes. Alléluia. Alors, qui fut Mephibosheth? Qui fut Mephibosheth? Si nous lisons dans la Bible, nous trouvons que Mephibosheth est un descendant de Saül. Nous l'avons même lu là-bas. Mephibosheth est un descendant de Saül. Saül qui est ennemi farouche de David. Saül est l'ennemi farouche de David. Et Mephibosheth est un descendant de ce Saül. David qui veut faire du bien à Mephibosheth, il rencontre un obstacle. C'est que son ancêtre est un ennemi de David. Ça pose déjà un problème. Alléluia. Ça pose déjà un problème. Mephibosheth est non seulement un descendant de Saül, deuxièmement, Mephibosheth est un perclus de pied. Abandonné à la société. Nous l'avons lu. Il est perclus des pieds. Si nous allons dans 2 Samuel chapitre 4, nous allons voir la circonstance qui a fait en sorte que cet homme, qui n'était pas né boiteux, qui n'était pas né dans cette circonstance, dans cette situation, puisse connaître cette infirmité. Dans 2 Samuel chapitre 4. 2 Samuel chapitre 4. Jonathan est un perclus des pieds, abandonné dans sa famille. Mephibosheth, pardon. Perclus des pieds, abandonné par la société. Dans 2 Samuel chapitre 4, les versets le verset 1er au verset 4e, la Bible déclare, lorsque les fils de Saül apprirent qu'Abner était mort à Hébron, ses mains restèrent sans force et tout Israël fut dans l'épouvante. Les fils de Saül avaient deux chefs de bande, dont l'un s'appelait Baamna et l'autre Rekab. Ils étaient fils de Rimon, de Béroth, d'entre les fils de Benjamin. Car Béroth était regardé comme faisant partie de Benjamin. Et les Béronites s'étaient enfouis à Gitaïm, où ils ont habité jusqu'à ce jour. Jonathan, fils de Saül, avait un fils percu de pied et âgé de 5 ans. Lorsque arriva à Jisraël la nouvelle de la mort de Saül et de Jonathan, sa nourrice le prit et s'enfuit. Et comme elle précipitait sa fuite, Mephibosheth, il tomba et resta boiteux. Son nom était Mephibosheth. Il tomba et resta boiteux. C'est un homme percu de pieds. Et étant tel, il est abandonné dans la société. Déjà, nous trouvons des cas qui sont en défaveur de Mephibosheth. Le premier cas, c'est qu'il est descendant de Saül. Le deuxième cas, c'est qu'il est percu de pieds et abandonné, n'est-ce pas? Troisièmement, Mephibosheth, ça j'ai aimé, il est le fils de Jonathan, l'ami intime de David. Mephibosheth, malgré tout ça, il est quand même le fils de Jonathan. Heureusement, le fils, l'ami intime de David. Alors, cette présentation que je viens de nous donner est déséquilibrante, n'est-ce pas? La présentation que je viens de nous donner est déséquilibrante. Nous avons deux cas en mauvais état et un cas en bon état. Il est descendant de Saül, c'est déséquilibrant. Il est percu des pieds, c'est déséquilibrant. D'un côté, il est quand même fils de Jonathan. Ça, c'est positif. Mais il y a deux cas déjà négatifs. Donc, il y a déséquilibre, n'est-ce pas? Je disais donc, cette présentation est déséquilibrante. Car elle ne présente rien pour que cet homme relève la tête. Rien ne montre que Mephibosheth, ce Mephibosheth va relever la tête un jour. Rien ne présente cela. Mais contre toute attente, nous allons voir Mephibosheth à la table du roi. Contre toute attente, nous allons voir Mephibosheth à la table du roi. Quel contraste! La situation est déséquilibrante. La présentation n'est pas à sa faveur, mais il est quand même à la table du roi. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin, c'est que Dieu n'a pas besoin d'un curriculum vitae bombé pour qu'il te fasse du bien. Dieu n'a pas besoin d'un curriculum vitae bombé pour qu'il te fasse du bien. Frères et sœurs, sur la terre, il y a des hommes qui ont des CV bombés. Il y a des hommes et des femmes qui ont des CV bombés. J'ai fait des CV. Je vois. Il y a des hommes qui peuvent venir au cyber, là-bas, je travaille. Un CV de 3 pages. Un CV de 3 pages. Banda banda au décrit. J'étais ceci, j'ai fait ceci, j'ai fait. Mais il y a d'autres personnes qui viennent. Le CV, c'est demi, je peux dire demi-page. Moi, mon CV, c'est juste demi-page. Je vous dis vrai, c'est demi-page. Mais contre toute attente, nous allons voir que cet homme qui a un CV à demi-page a engagé celui qui a un CV de 3 pages. Comment expliquer ça? Bien aimé, Dieu n'a pas besoin d'un curriculum vitae bombé. Aie des diplômes, aie des titres, aie tout ça, mais Dieu n'a pas besoin de tout ça pour te faire du bien. J'aimerais te dire que Dieu peut passer au-delà de tes titres pour te faire du bien. Dieu peut passer au-delà de tes savoirs pour te faire du bien. Dieu peut passer au-delà de tout ce que tu as pour te faire du bien. Il n'avait pas un CV favorable. Son CV était déséquilibrant. Un curriculum vitae déséquilibrant. Dieu n'a pas besoin. Un seul point suffit. Un seul point de Dieu suffit. Dieu a besoin seulement d'un seul point dans ton CV. Sois seulement fils de Dieu. Sois seulement enfant de Dieu. Un seul point inscrit dans ton CV suffira pour que Dieu te fasse du bien. Un seul point dans ton CV suffira pour que le Seigneur t'amène à la hauteur. Un seul point dans ton CV suffira pour que le Seigneur te fasse du bien. Il n'a pas besoin d'un CV bombé. Un seul point suffira. Un seul point suffira. Il était fils, descendant de Saül, c'est déséquilibrant. Il était perclus de pieds, abandonné, c'est déséquilibrant. Mais partant d'un seul point, un seul point a suffi pour que Mephibosheth se retrouve à la table du roi. Frères, sœurs, dans ta vie, un seul point suffira. Un seul point suffira. Et ce point, c'est être avec Jésus. Et ce point, c'est être enfant de Dieu. Et ce point, c'est rencontrer le Seigneur. Alléluia. Celui qui rencontre le Seigneur, les choses changent dans sa vie. Dans la pleine jouissance de son royaume, de son règne, David va se mettre à la recherche d'un des descendants de Saül. David devait jouir de son royaume, de son règne. Mais dans sa pleine jouissance, David va laisser cette jouissance d'abord de côté pour descendre au secours, pour venir à la recherche de Mephibosheth. Alléluia. Et nous le trouvons de même. Dieu ne s'est pas empêché de laisser son trône. Dieu ne s'est pas empêché de laisser son règne pour venir à la recherche de l'homme. Pour venir à la recherche de quelqu'un qui est perdu. Frère, sœur, Dieu ne pourrait pas s'empêcher à croiser les bras pour te laisser dans ta situation. Dieu ne croisera pas les bras. Il n'a pas croisé les bras pour venir au secours d'un homme qui était perdu. Il ne laissera pas les bras. Alléluia. Mais Mephibosheth était forcément oublié. Parce qu'on l'a recherché. David est en train de demander, est-ce qu'il y a-t-il encore un des descendants? Il était oublié. Qui pouvait se souvenir de lui? Mais ce que j'ai aimé, Mephibosheth était forcément oublié, c'est vrai, mais il était localisable. Mephibosheth était oublié, mais Mephibosheth était localisable. Frères, sœurs, laisse que les hommes t'oublient, mais sois localisable. Laisse que les hommes t'abandonnent, laisse que les hommes t'ignorent, mais sois seulement localisable. Car si tu es localisable, l'on viendra te chercher là où tu es. L'on viendra te chercher là où tu es. On viendra te trouver là où tu es. Mephibosheth était oublié, c'est vrai. Mais Mephibosheth était localisable. On pouvait localiser Mephibosheth. Bien qu'il était oublié, mais on savait qu'il était à Lodébar. On savait qu'il était à la maison de Makir, fils d'Amiel. Frères, sœurs, que les autres t'oublient, mais reste dans la présence de Dieu. Car dans les réunions du Seigneur, un homme est localisable. C'est dans les réunions du Seigneur qu'on est localisable. Et contre toute attente, on va poser la question à Tchiba. Et Tchiba va dire qu'il y a un Mephibosheth quelque part. Dans ta vie, il y aura toujours un Tchiba. Sois localisable, il y aura toujours un Tchiba dans ta vie. Il y aura toujours quelqu'un qui dira, non, 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 je connais quelqu'un. Il y aura toujours quelqu'un qui dira, non, 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 je connais ce type. Alléluia. Il y aura toujours un Tchiba qui donnera la position de Mephibosheth. Le Saint-Esprit est là pour donner ta position auprès du Seigneur. L'Esprit de Dieu est là pour donner ta position auprès du Seigneur. Reste dans sa présence. Demeure dans la présence de Dieu. Le Saint-Esprit donnera ta position auprès du Père. Tu sais, sois localisable seulement. Ne dis pas parce que les gens m'ont oublié, parce que les gens m'ont abandonné, alors moi aussi j'abandonne. Alors moi aussi j'oublie les choses. Alors moi aussi je me délocalise. Ne te délocalise pas de là où tu es. Reste là. Reste là. Car même si tout le monde ne te voit pas, il y a un Tchiba qui te voit. Il y a un Tchiba qui te voit. Je me suis alors posé la question, comment comprendre qu'un perclus de pied, habitant à Lodébar, loin de Jérusalem, arrive tout de même à s'asseoir avec le roi dans sa table? Comment comprendre qu'un perclus de pied, habitant à Lodébar, loin de Jérusalem, arrive tout de même à s'asseoir avec le roi dans sa table? Comment comprendre cet homme qui n'a pas grandement étudié, arrive tout de même à engager des hommes et des femmes qui ont fait de longues études? Comment comprendre cette femme qui a apporté tant de foi, arrive tout de même à se marier et à avoir des enfants? Comment comprendre? Comment comprendre? Comment comprendre? C'est une situation qui trouble les gens. Comment comprendre cela? Ça trouble. Notez pour évoluer rapidement. Les réponses de Mephibosheth nous répondent donc à cette question. Comment comprendre qu'un perclus de pied, habitant à Lodébar, loin de Jérusalem, arrive tout de même à s'asseoir avec le roi dans sa table? Comment comprendre cela? Nous répondons à cette question en disant, le repos de Mephibosheth n'est pas un fruit du hasard. Alléluia. Le repos que tu viens soupirer ce matin n'est pas un fruit du hasard. La chose que tu demandes, que tu cherches auprès du Seigneur, ne sera pas un fruit du hasard. Je ne suis pas venu encourager les hasards ici. Il n'y a pas de hasard dans la vie de Dieu. Il n'y a pas de hasard dans les choses de Dieu. Une sœur nous a bénis à la jeunesse et nous a dit, la vie d'un enfant de Dieu n'est pas du hasard. La vie d'un enfant de Dieu n'est pas chanceux. Un enfant de Dieu n'est pas d'abord chanceux, mais il est gracieux. Un enfant de Dieu n'est pas chanceux, mais il est gracieux. Le repos de Mephibosheth n'est pas un fruit du hasard, mais il est le résultat 1. Mais il est le résultat, il est repos donc. Il est le résultat 1 d'une alliance de père, en passant par 2, les bienfaits de Jonathan, avant d'atteindre son apogée à 3, la table du roi. Je disais donc, le repos de Mephibosheth n'est pas un fruit du hasard, mais il est le résultat 1 d'une alliance de père, en passant par 2, les bienfaits de Jonathan, avant d'atteindre son apogée à 3, la table du roi. Vous comprenez donc, nous allons parler de 3 points. Une alliance de père, les bienfaits de Jonathan, et à la table du roi. Une alliance de père. Est-ce qu'on peut avancer? Une alliance des pères. L'alliance est définie par le dictionnaire comme une union entre deux personnes qui est le résultat d'une attente ou d'un pacte. Quand les hommes font des alliances, ça veut dire ils se sont mis d'accord. Ils se sont mis d'accord, ils se sont unis. Et ils se sont mis d'accord, ils ont fait des pactes. Et ces pactes-là aboutissent à une alliance. Et cette alliance dont nous parlons ici n'a pas été faite entre Mephibosheth et David. Cette alliance dont nous parlons a été conclue entre David et Jonathan. Là, nous sommes dans 1 Samuel, chapitre 23. Je disais donc, cette alliance fut conclue entre David et Jonathan, le père de Mephibosheth. 1 Samuel chapitre 23, les versets 15 au verset 18. 1 Samuel chapitre 23, les versets 15 au verset 18. La Bible dit, David, voyant Saül en marche pour atteindre à sa vie, s'éteint au désert de Ziph dans la forêt. Ce fut alors que Jonathan, fils de Saül, s'éleva et alla vers David dans la forêt. Il, Jonathan, donc, fortifia sa confiance en Dieu et lui dit, « Ne crains rien, car la main de Saül, mon père, ne t'atteindra pas. Tu régneras. » Notez très bien. C'est Jonathan qui est en train de parler. C'est Jonathan qui parle à David. Notez très bien, tu régneras. Nous sommes ensemble. Tu régneras sur Israël. Et moi, je serai au second rang près de toi. Saül, mon père, le sait bien aussi. Ils firent tous deux alliance devant l'Éternel. Et David resta dans la forêt et Jonathan s'en alla chez lui. Ils firent tous deux alliance devant l'Éternel. C'est Jonathan qui est en train de parler, il dit que tu régneras sur Israël. Tu régneras sur Israël. Cette alliance, quand elle a été conclue, probablement Mephibosheth n'était pas encore né. Probablement, il n'était pas encore né. Alors, notez ceci. Jonathan, fils de Saül, était l'héritier officiel du trône de son père. Jonathan, fils de Saül, était l'héritier officiel du trône de Saül, son père. Nous le trouvons dans 1 Samuel chapitre 20, les versets 30 et les versets 31. 1 Samuel chapitre 20, les versets 30 et les versets 31. Jonathan était l'héritier officiel du trône de Saül. Donc, après Saül, celui qui devait régner, c'était Jonathan. Il était l'héritier officiel. Mais, chose étonnante, il va faire alliance avec David, l'homme qui, entre guillemets, est une menace pour sa royauté. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Jonathan, c'est lui qui devait régner à la place de Saül. Et Jonathan va dire à David, je sais que c'est toi qui régneras. Comment ça? C'est David, entre guillemets, parce que si nous lisons dans 1 Samuel chapitre 20, les versets 30 à 31 que je viens de donner, nous allons voir que Saül est en train de dire à Jonathan, tant que David vivra, ton trône sera en danger. Ton trône est menacé. Mais Jonathan va faire alliance avec celui, entre guillemets, qui menace son royaume, qui menace son trône. Je me suis posé la question alors, quelle était alors la motivation de Jonathan en faisant alliance avec David? Ou c'était sur quelle base? Quelle était sa motivation? Parce que Jonathan savait qu'après mon père, c'est moi qui devais régner. Et il savait aussi qu'après mon père, c'est David qui doit régner. Donc David est en train de menacer son royaume. Il est en train de menacer son trône. Mais Jonathan va quand même décider de faire alliance avec David. Alors, comment comprendre ça? Quelle était alors sa motivation? Notez ceci. Contrairement à Saül, son père, les choix de Jonathan étaient basés sur le futur glorieux de David et non à son présent faible. Contrairement à son père Saül, les choix de Jonathan étaient basés sur le futur glorieux de David et non à son présent qui était faible. Le présent de David était faible. Le présent de David n'envisageait pas grand-chose. Mais Jonathan, au-delà de tout ça, il a vu le futur glorieux de David et il a décidé de faire alliance. Alléluia. Donc, autrement dit, la révélation qu'il avait de David l'a conduit à faire un choix incompris dans le présent. La révélation que Jonathan avait de David a poussé Jonathan à faire un choix qui était incompris dans le présent. Car ces choix-là, si nous les reprenons, nous l'amenons dans le présent, nous n'allons pas comprendre. Comment toi, Jonathan, tu fais alliance avec celui qui est entre guillemets ton ennemi? C'est incompris, ces choix-là. C'est incompris. Mais parce que Jonathan avait la révélation. Alléluia. C'est parce que Jonathan avait la révélation. Plusieurs tissent des alliances aujourd'hui sur base de ce qu'ils voient présentement. Malheureusement. Plusieurs concluent des alliances aujourd'hui sur base du présent. Et ils ne voient pas ce qui viendra après. Ils ne voient pas le futur après. Et par conséquent, plusieurs alliances sont brisées dans le futur. Par conséquent, plusieurs choses ne tournent pas au futur. Pourquoi est-ce que tu étais engagé avec cette sœur? Pourquoi est-ce que tu étais engagé avec cet associé? C'est parce que tu regardais seulement le présent. C'est parce que tes regards étaient fixés sur le présent. Frères et sœurs, je suis venu dire à quelqu'un ce matin, ne regarde pas seulement au présent, car le présent peut te tromper. Le présent d'un homme peut être faible, mais ce ne sera pas sa fin. Le présent d'un homme peut être négligé, mais ce ne sera pas sa fin. Laisse-moi te dire, ton présent peut être faible aujourd'hui, mais ton présent ne veut pas dire que c'est la fin de ta vie. Ton présent n'est pas la fin de ta vie. Le présent de David était faible. Qui était-il? Il était un berger, là-bas derrière le troupeau. Qui était-il? Un joueur de harpe. Alors que Jonathan était déjà à la table du roi. Alors que Jonathan était déjà fils du roi. Le présent de David paraissait faible. Mais Jonathan n'a pas regardé au présent. Jonathan a regardé au futur. Alléluia. Frère, sœur, tu veux conclure une alliance avec quelqu'un. Ne regarde pas seulement au présent. Ne te limite pas seulement dans les présents. Car les présents peuvent te tromper. Tu peux voir un homme glorieux aujourd'hui. Tu peux voir un homme fort aujourd'hui. Tu te dis, voilà, c'est lui qui me convient. Est-ce que tu as vu son futur? Qui t'a dit que dans le futur, il sera toujours comme ça? Qui t'a dit ça? Plusieurs alliances sont détruites aujourd'hui parce que hier, ils n'ont pas regardé le futur. Parce qu'ils étaient focus sur les présents. Excusez-moi de parler au couple. Plusieurs divorces aujourd'hui, nous les voyons dans l'église. Pourquoi? Parce que les relations, les alliances ont été faites sur base des présents. Cet homme a beaucoup d'argent, alors je vais me lancer. Cette femme est belle, alors je vais me lancer. Frères, sœurs, si tu regardes seulement au présent, le présent peut te tromper. Le présent d'un homme peut te tromper. Alléluia. Il est donc important que chacun de nous, avant de conclure une alliance, se pose la question, avec qui je traite cette alliance? Avec qui je conclue cette alliance? Et quelles sont les conséquences après? Quelles sont les conséquences? Quelles seront les conséquences après? Avec qui je m'engage? Avec qui je m'associe dans les affaires? Avec qui je me lie dans le commerce? Avec qui je me lie? Nous sommes toujours là à regarder au présent. Qu'est-ce qui va m'apporter présentement? Qu'est-ce qui va me donner présentement? Qu'est-ce qui va me donner? Qu'est-ce qui va apporter à mes enfants? Est-ce que tu vois le futur? Alléluia. Regardons également au futur. Regardons également au futur. Si, notez, si par son alliance avec David, Jonathan a pu assurer une dimension de sécurité de sa famille, parce qu'en faisant alliance avec David, Jonathan a assuré une dimension de sécurité de sa famille. Nous le voyons, David va prendre en charge Jonathan. David va prendre en charge Mephibosheth. C'est une sécurité. Qui a assuré cette sécurité? C'était Jonathan qui a conclu l'alliance hier. Et encore, en faisant cette alliance, Jonathan a assuré une dimension de sécurité de sa famille. Alors je disais donc, si par son alliance avec David, Jonathan a pu assurer une dimension de sécurité de sa famille, nous trouvons, notez très bien ceci, nous trouvons en Jésus-Christ une alliance éternelle qui assure une double sécurité au siècle présent et au siècle à venir. Nous trouvons en Jésus une alliance qui assure une double sécurité. Nous trouvons en Jésus une alliance qui assure une double sécurité. Si Jonathan a tissé une alliance avec David, cette alliance est limitée seulement à une seule dimension. L'alliance avec Jésus amène dans les deux dimensions. L'alliance avec Jésus assure sur la terre. L'alliance avec Jésus assure également là-haut. Quelle alliance choisis-tu? L'alliance avec Jésus assure double sécurité. Alléluia. Je suis venu t'annoncer une alliance qui assure une double sécurité. Ne te confie pas seulement à l'alliance sur la terre, car l'alliance sur la terre n'a qu'une seule possibilité. L'alliance sur la terre n'a qu'une seule dimension de sécurité. Alléluia. L'alliance sur la terre n'a qu'une seule dimension de sécurité. Après la mort, c'est fini, terminé. Mais l'alliance que nous tissons avec Jésus, l'alliance que nous tissons avec Jésus, ne nous assure pas seulement sur la terre, mais nous amène également dans les cieux. La Bible déclare, alléluia, dans Marc chapitre 10, nous pourrons les lire. Marc chapitre 10, les versets 28 et les versets 30. C'est là d'ailleurs nous avons tiré notre thème de la jeunesse. C'est formidable ce texte. Marc chapitre 10, les versets 28 et les versets 30. Je disais donc, en Jésus-Christ, en Jésus, nous trouvons une alliance éternelle qui assure une double sécurité au siècle présent et au siècle à venir. Marc chapitre 10, les versets 28 et les versets 30. Pierre s'est mis à lui dire, voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Jésus répondit, je vous l'ai dit en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi, voilà, à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison, ou ses frères, ou ses sœurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, ne reçoivent, est-ce que vous êtes avec moi, ne reçoivent au centuple présentement, alléluia, présentement dans ces siècles-ci, des maisons, des frères, des mères, des enfants, des terres, avec persécution, et dans les siècles à venir la vie et l'alliance avec Jésus assure cette double sécurité. Alléluia. Quelle alliance choisis-tu? Tu préfères seulement t'accrocher avec des hommes, t'allier aux hommes. L'alliance avec les hommes peut te procurer le bonheur à un niveau ou à un autre. Je n'en disconviens pas. Je ne refuse pas. Mais la meilleure alliance qui ne te trahira jamais, c'est l'alliance avec Jésus. Je suis venu te présenter l'alliance avec Jésus. Traite alliance avec Jésus. Tu auras alliance avec les hommes, c'est vrai. J'aurai alliance avec les hommes, c'est vrai. J'aurai à traiter avec les hommes, c'est vrai. Mais la meilleure alliance qui ne sera jamais indispensable dans ma vie, c'est l'alliance avec Jésus. La première alliance qui ne sera jamais indispensable dans ma vie, c'est l'alliance avec Jésus. Entre dans l'alliance avec Jésus et cette alliance ne te décevra jamais. Entre dans l'alliance avec Jésus Et cette alliance ne te décevra jamais. L'alliance avec Jésus ne te décevra jamais. Alléluia. Nous trouvons dans ce récit de 2 Samuel chapitre 9 une belle illustration de la grâce qui est une faveur imméritée. Mephibosheth qui jouit de bonheur, de l'alliance, sans fournir aucun effort. Mephibosheth n'a fourni aucun effort, mais il va jouir du résultat de l'alliance. Alléluia. La grâce est prendre, comme nous l'avons vu le dimanche passé, la grâce est capable de prendre en charge quelqu'un. La grâce est capable de prendre en charge ta vie. La grâce est capable, là où tes efforts sont limités, la grâce de Dieu peut venir à ton secours. Là où tes efforts ne vont plus, la grâce de Dieu peut venir à ton secours et te prendre en charge pour te relever. Alléluia. Mephibosheth était là à Lo-Déba, abandonné, mais la grâce est venue pour se saisir de lui. La grâce est venue pour le récupérer. Je prie ce matin que la grâce de Dieu te récupère. Je prie ce matin que la grâce de Dieu te récupère. Là où les hommes t'abandonnent, que la grâce de Dieu te récupère. Là où les hommes t'oublient, que la grâce de Dieu te récupère. Là où les hommes ne comptent pas sur toi, que la grâce de Dieu te récupère. La grâce peut récupérer. La grâce peut récupérer. Remarquons alors une chose. Avant de passer à autre chose, remarquons. Mephibosheth est perclus de pied. N'est-ce pas? Mephibosheth est perclus de pied. Étant tel, il n'avait même pas le droit d'entrer dans la maison royale. Étant perclus de pied, Jonathan n'avait même pas le droit d'entrer dans la maison royale. Il n'avait pas le droit. Mephibosheth, il n'avait pas le droit d'entrer. Si nous lisons dans 2 Samuel chapitre 5, nous allons trouver ça. Il n'avait pas le droit d'entrer dans la maison royale. 2 Samuel chapitre 5 nous le dit, le verset 6 jusqu'au verset 8e. Le roi David donc, marcha avec ses troupes, avec ses gens, sur Jérusalem contre les Jébusiens, habitants du pays. Et ils dirent à David, tu n'entreras point ici, car les aveugles même et les boiteux te repousseront. Ce qui voulait dire, David n'entrera point ici. Mais David s'empara de la forteresse de Sion. C'est la cité de David. Le verset 8, la Bible dit, David avait dit en ces jours, quiconque battra les Jébusiens et atteindra les canals, quiconque frappera ses boiteux, ses aveugles, qui sont les ennemis de David. Trois points de suspension, cela veut dire que la phrase a continué. Notez la suite. La suite dit, c'est pourquoi l'on dit l'aveugle et les boiteux. Lisons avec moi. L'aveugle et les boiteux n'entreront point dans la maison. Mephibosheth, dans cette condition, n'était pas autorisé, n'avait pas droit d'entrer dans la maison royale. Il n'avait pas le droit. Il y avait une loi qui l'interdisait. Il y avait une loi qui l'intercalait. Il y avait une loi qui disait que non, stop, toi tu ne peux pas entrer ici. Il y avait une loi qui le limitait. Il ne pouvait pas. Cependant, je disais donc, Mephibosheth, perclus des pieds, étant tel, il n'avait même pas le droit d'entrer dans la maison royale. Cependant, cette loi a été engloutie par l'alliance conclue. Ceci pour dire l'alliance est plus forte que les lois établies. Je suis venu te dire que l'alliance avec Jésus est plus forte que les lois établies. Peu importe les lois qui peuvent te retenir, peu importe les lois qui peuvent peser sur toi, puisque tu es en alliance avec Jésus, l'alliance avec Jésus engloutit toutes les lois. L'alliance avec Jésus anéantit toutes les lois. L'alliance avec Jésus engloutit toutes les lois. L'alliance a la force, l'alliance a la capacité d'engloutir les lois. Quelle est la loi qui pèse sur toi? Quelle est la loi qui s'impose dans ta vie? Quelle est la loi qui pèse dans la famille? Quelle est la loi qui pèse dans les quartiers? L'alliance a la capacité d'engloutir la loi. Alléluia! L'alliance a la capacité d'engloutir la loi. Cette vérité a été un fait réel dans la vie de Ruth, la Moabite. Cette vérité sur laquelle l'alliance a la capacité d'engloutir la loi a été un fait réel dans la vie de Ruth la Moabite. Dans Deutéronome chapitre 23, le verset 3, la Bible déclare que les Moabites et les Ammonites ne pouvaient pas entrer dans l'assemblée des saints. Ne pouvaient pas entrer dans l'assemblée. Ils ne pouvaient pas. C'était une loi. Donnée par qui? Donnée par Dieu lui-même. une loi donnée par Dieu lui-même. Mais à cause de l'alliance. Dans Ruth chapitre 1, les versets 16 jusqu'au verset 18e, Ruth va dire à Naomi, où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton Dieu, ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Dès cet instant, Ruth est entrée en alliance. Et puisqu'elle est entrée en alliance, dans Matthieu chapitre 1, les versets 5, nous allons retrouver Ruth dans la généalogie de Jésus. Dans Matthieu chapitre 5, nous allons retrouver Ruth dans la généalogie de Jésus. Autrement dit, l'alliance qu'il a liée, l'alliance qu'il a retenue a été brisée. Et désormais, Ruth peut accéder à la présence du Seigneur. Et désormais, Ruth peut accéder dans la présence du Seigneur. Quelle est la loi qui pèse dans ta vie? Quelle est la loi qui te retient? L'alliance est donc capable, a la capacité de reconfigurer les choses dans ta vie. Alléluia. L'alliance avec Jésus a la capacité de reconfigurer les choses dans ta vie. Oh, j'ai prié ce matin que les choses soient reconfigurées dans ta vie. Que les choses soient reconfigurées dans ta vie. Que l'alliance reconfigure les choses. Que l'alliance retravaille les choses. Que l'alliance retraite les choses. Que l'alliance retraite là où les choses étaient coincées. Là où les choses ne marchaient plus. Là où les choses étaient bloquées. Que l'alliance commence petit à petit à reconfigurer. Petit à petit à retravailler. Petit à petit à changer. À changer. À changer. À changer dans ta vie. L'alliance a cette capacité de changer. Alléluia. L'alliance a la capacité de changer. Si nous ne terminons pas hier, ce n'est pas grave. Mais voyons les bienfaits de Jonathan. Voyons les bienfaits de Jonathan. Jusqu'ici, c'est David qui avait bénéficié de bien de Jonathan. Dans 1 Samuel chapitre 18, les versets 2 à 4, la Bible déclare, déjà au verset 1, que quand David s'est présenté devant Saül, en train de parler, l'abbé déclare, dès cet instant, l'âme de Jonathan s'est attachée à David. Et Jonathan l'aima comme son âme. Et Jonathan lui a donné son arc, son épée. C'est Jonathan qui lui a donné. David n'avait encore rien fait. David n'avait encore rien donné à Jonathan. C'est Jonathan qui avait fait tout le bien à David. Alléluia. C'est Jonathan, jusqu'ici c'est David qui bénéficie. Dans cette histoire, nous avons d'une part Jonathan qui fait du bien à David, dans 1 Samuel 18 comme je l'ai dit, et d'autre part David qui accomplit la promesse qu'il avait faite à Jonathan. D'une part Jonathan fait du bien à David, et plus tard dans 1 Samuel chapitre 20, les versets 14 jusqu'au verset 18, c'est David qui va faire la promesse à Jonathan. David va promettre, Jonathan va demander, va faire cette demande. Et David va lui promettre que jamais je ne t'abandonnerai. Jamais je n'oublierai ta postérité. Donc d'une part, nous avons quelqu'un qui fait du bien. Et d'autre part, nous avons celui qui répond à la promesse qu'il avait faite à son ami. Jonathan vient en aide à David. Non pas parce que ce dernier avait la possibilité de lui rendre. Mais parce qu'il l'aimait comme son âme. Jonathan, quand il vient en aide à David, ce n'est pas parce que David pouvait d'abord lui rendre ce qu'il lui faisait, non. Mais c'est parce que d'abord Jonathan l'aimait, car donner est un acte d'amour. Donner est un acte d'amour. Jonathan est en train de donner à David. Il est en train de témoigner son amour à David. Il est en train de donner. Donner est un acte d'amour. À ceci, Jonathan défie notre monde qui n'étend la main qu'à celui ou celle qui peut faire la même chose pour lui. Malheureusement, c'est notre monde. Notre monde ne peut faire du bien qu'à celui qui a la capacité de lui faire du bien. Notre monde n'étend la main qu'à celui qui peut lui tendre la main. Ce n'est pas comme ça avec Jonathan. Ce n'est pas ce que Jonathan nous apprend. Il défie notre monde. Jonathan ne fait pas du bien d'abord parce que David pouvait le lui rendre. Mais il fait du bien parce qu'il l'aime. Nous le trouvons également dans Genèse chapitre 25. Le verset 28, la Bible déclare, Isaac aimait Ésaü parce qu'il mangeait du gibier. Vous voyez? Donc Isaac aime pourquoi? Parce que Ésaü lui donne. Isaac aimait Ésaü parce qu'il mangeait du gibier. Mais Rebecca aimait Jacob sans raison. on n'a donné aucune raison. Pour... Rebecca, pourquoi est-ce que tu aimes Isaac? Pourquoi est-ce que tu aimes Isaac? Non, pourquoi est-ce que tu aimes Jacob? On ne sait pas. Aucune raison. L'amour vrai ne demande pas d'abord des raisons. L'amour vrai ne demande pas d'abord des raisons. Ne demande pas d'abord des raisons. C'est ça notre monde. Je vais te donner qu'est-ce que je vais gagner en retour. Je vais te donner qu'est-ce que tu vas me donner en retour. C'est ça le malheur de notre monde. Il veut d'abord tendre la main à celui qui a la capacité de les rendre l'appareil. C'est pas ça pour Jonathan. C'est pas ça pour Jonathan. Alléluia. Par cette attitude, Jonathan nous apprend que le vrai amour ne se limite pas au dire. Ne se limite pas au dire, mais se concrétise par des faits, sans intérêt égoïste derrière. Le vrai amour ne se limite pas par le dire, mais ça se concrétise. Autrement dit, on a dit, mais on a concrétisé cet amour par des faits, et non en attendant des intérêts égoïstes derrière. Plusieurs donnent parce qu'ils ont des intérêts égoïstes derrière. Ils donnent parce qu'il a, même s'il ne dit pas, dans son cœur, il attend que cette personne. Ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas comme ça. Il n'y a pas d'intérêt égoïste quand on donne. Il n'y a pas d'intérêt égoïste quand on aime. Alléluia. Il n'y a pas d'intérêt égoïste quand on aime. Tout bienfait ne reste pas enterré. Notez que tout bienfait ne reste pas enterré. Fais du bien. Ton bien-là ne restera pas enterré. Même si la personne que tu as donnée a oublié, ton bien-là ne restera pas enterré. Tout bienfait ne reste pas enterré. Même si la personne que tu as donnée a oublié. Tabitha est un exemple parfait. Tabitha a bénéficié de l'intercession de sa communauté sans l'avoir demandé au préalable. Elle faisait du bien, elle faisait du bien. Acte chapitre 9. Elle faisait du bien, elle faisait du bien, elle faisait du bien. Et un jour, Tabitha va mourir. À cause de ses biens. À cause de ses biens. Ceux de sa communauté vont intercéder. Envoyez les gens à Jopé. Allez appeler Pierre. Qu'ils viennent, qu'ils prient. Cette femme ne doit pas mourir comme ça. Et quand Pierre est venu, la Bible déclare que les veuves montraient à Pierre les habits que Tabitha a cousus. On montrait à Pierre. Tabitha n'était plus là. Tabitha ne savait plus. Elle était morte. Mais ses bienfaits n'étaient pas enterrés. Ton bienfait ne sera pas enterré. Les bienfaits de Jonathan n'étaient pas enterrés. Ce n'est pas ton bienfait qui sera enterré. Continue à faire du bien. Il ne sera pas enterré. Continue à faire du bien. Ton bien ne sera pas enterré. Ton bien ne sera pas enterré. Moi, je continue. Je continue à faire du bien. Ça nous voyons d'une part. Nous avons dit que d'une part, il y a Jonathan qui fait du bien. Jonathan fait du bien. Nous avons également dit, d'autre part, il y a David qui accomplit la promesse qu'il avait faite. Qu'il avait faite à Jonathan. De son côté, après avoir bénéficié des bienfaits de Jonathan, David ne resta pas ingrat devant la situation chaotique que traversait la famille de son bienfaiteur. De son côté, David ne va pas rester ingrat. Oui, Jonathan m'a fait du bien. Je ne vais pas rester ingrat. Combien d'hommes et de femmes sont ingrats aujourd'hui? On lui a fait du bien hier, il oublie. On l'a fait du bien hier, il oublie. Il abandonne la personne qui lui a fait du bien. La personne qui t'a fait du bien, oui, mais reconnais, ne sois pas ingrat. David n'était pas ingrat. David a reconnu et il n'a pas laissé la famille de Jonathan sombrer. Il n'a pas laissé la famille de Jonathan dans le noir. Ceci est un signe de gratitude que plusieurs perdent en se cachant derrière, entre guillemets. Oh, il a fait du bien par amour, non? Mais il a fait du bien par amour, non? Pourquoi est-ce que je devais faire du bien moi aussi? Pourquoi est-ce que je devais faire du bien moi aussi? Oublions que la gratitude est aussi un acte d'amour. La gratitude aussi est un acte d'amour. Si les données est un acte d'amour, la gratitude aussi est un acte d'amour. Il ne faut pas te dire que non, la personne m'a donné à Italie ou à Nambo. Après ça, il y a ici déjà. Non. On t'a donné, sois reconnaissant. Sois reconnaissant. Pourquoi est-ce que je serais ingrat à la personne qui m'a donné? Notre monde est pourri. Notre monde est gâché. Des hommes et des femmes qui sont ingrats, décourageant même ceux qui veulent faire du bien. Combien de personnes tu as déjà découragées? Il t'a fait du bien hier. C'est toi la première personne à les critiquer. Il t'a fait du bien hier. C'est toi la première personne à l'insulter. Ah, c'est là que Bola Moulobi. C'est vrai, je ne m'attends pas à ça. Je n'attends pas quand je te fais du bien. Je n'attends pas au retour. Rien. Mais toi, ne sois pas ingrat. Pourquoi serons-nous ingrats? Alléluia. Pourquoi serions-nous ingrats? David a promis à Jonathan. Au moment où il n'avait encore rien. Quand David a promis à Jonathan, David n'était encore personne. Certes, il venait de tuer Goliath. Certes, il avait l'onction. Mais concrètement, par là, il n'avait rien. Il a promis à Jonathan quand il n'avait encore rien. Et par loyauté, il va tenir parole face à ses engagements. Quand il n'avait encore rien, il a fait des promesses. Et quand il accomplit ses engagements. C'est ça le problème de notre monde. Plusieurs promettent aujourd'hui, mais tant qu'à aujourd'hui, tu as promis, on te voit là avec des promesses. Ces promesses-là, si seulement on réalisait toutes les promesses, il y a des personnes qui seront riches. Je vous assure, si seulement on réalisait toutes les promesses, il y a de ceux qui seront riches. Il est là, il te promet. Mais qu'il aille seulement. Quand il aura, il oublie. Il oublie tout. Ce n'est pas comme ça avec David. Ce n'est pas ça avec David. J'ai promis et je vais réaliser ce que j'ai promis. Quand j'avais promis, je n'avais rien. Maintenant, je dois réaliser. Combien de frères ne promettent-ils pas aux sœurs? Oh, c'est à la calme. Quand le travail vient là, il oublie la sœur perdue, tout ça là. Mes frères, tu étais ici. Mes frères, qu'est-ce qui se passe? Tu as déjà reçu. Pourquoi notre monde est comme ça? David nous apprend que si j'étais dans la disette, j'ai fait des promesses. Dans l'abondance, j'accomplis mes promesses. C'est ça un homme loyal. C'est ça un homme fidèle. C'est ça un homme intègre. Je promets, je réalise. Ne sois pas un prometteur. Un frère me dit de Santumvuni. Il est là, il vient, il te promet. Après un certain temps, il part. On oublie. Combien d'hommes et de femmes sont encore prêts à tenir parole aujourd'hui? Combien d'hommes et de femmes tiennent encore parole aujourd'hui? Combien tiennent encore parole? David a tenu parole. Il a promis. Et il a réalisé. Je suis venu te dire, tiens parole. Tu promets, tu fais des promesses. Je ne t'interdis pas de faire des promesses. Fais et accomplis tes promesses. Alléluia. Fais et accomplis tes promesses. La table du roi, pour terminer, assure une position élevée. Mephibosheth qui était percu de pied, remarquons une chose. Nous allons terminer par là. Mephibosheth est percu de pied. Mais il est à la table du roi. Regardez. Celui qui s'assoit à la table, Mephibosheth est percu des pieds, celui qui s'assoit à la table, ses pieds ne se voient pas. Il n'y a que cette partie-ci qui se voit. À la table du roi, Mephibosheth est assis. Tant que Mephibosheth restera à la table du roi, ses infirmités seront cachées. Alléluia. Tant que tu resteras à la table du roi, ton infirmité sera cachée. J'aimerais te dire, la table du roi cache les infirmités. La table du roi cache les infirmités. Quelle est ton infirmité? La table du roi va les cacher. Quelle est ton infirmité? La table du roi va les cacher. Est-ce que tu peux te lever dans la prière? La table du roi va cacher ton infirmité. La table du roi peut cacher ce que tu traverses. La table du roi, dans tous les domaines, la table du roi peut cacher ton infirmité. Quelle est ta situation? Quel est ton trouble? Qu'est-ce qui te dérange? Viens à la table du roi. Viens à la présence de Jésus. La table du roi est capable de cacher ton infirmité. Il ne se fera pas voir auprès des hommes. La table du roi ne fait pas voir l'infirmité des hommes. Mais Mephibosheth, tant que tu resteras à la table du roi, ton infirmité ne se fera pas voir. Frères, sœurs, tant que tu resteras dans la présence de Jésus, ton infirmité, ta faiblesse ne sera pas vue. Ton incapacité ne sera pas vue. Ton manque ne sera pas vu. Le Seigneur est capable de te couvrir. La présence de Jésus te couvre. Ton infirmité ne sera pas vue. ton infirmité ne sera pas fuie. Alors reste à la table du roi. Alors reste à la table du roi. Est-ce que tu peux te lever là où tu es? Lève-nous et parlons à Dieu. Lève-nous et parlons à Dieu. Lève-nous et parlons à Dieu. À la table du roi, l'infirmité est couverte. À la table du roi, l'infirmité est couverte. À la table du roi, tes faiblesses sont couvertes. À la table du roi, tes faiblesses ne se verront plus. À la table du roi, tes faiblesses seront cachées. Tes faiblesses seront cachées. Qu'est-ce que tu redoutes? Qu'est-ce que tu crains? Qu'est-ce que tu fais ta honte? À la table du roi, ta honte sera couverte. À la table du roi, ta honte sera couverte. Merci Seigneur. Merci Jésus. À la table du roi, ta faiblesse et ta honte sera couverte. Ta faiblesse et ta honte sera couverte. Ta faiblesse et ta honte sera couverte. À la table du roi, ta faiblesse et ta honte sera couverte. Ne promène pas les regards inquiets. À la table du roi, ta faiblesse et ta honte sera couverte. À la table du roi, tu seras couvert par le sang. Tu seras couvert par cette table. Et ta faiblesse va se cacher. Et ta faiblesse va se cacher. Alléluia. Alléluia. J'aimerais faire un appel avant de terminer. Tu as traité certes une alliance avec les hommes, mais il y a une alliance meilleure qui t'attend. C'est l'alliance avec Jésus. Tu n'as pas encore cette alliance ou tu n'es pas encore entré dans cette alliance. Lève ta main là où tu es. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, à partir d'aujourd'hui, je vais entrer dans ton alliance. À partir d'aujourd'hui, je vais bénéficier des fruits de ton alliance. Lève ta main. Merci, merci. Seigneur, prends-les entre tes mains. Qu'ils entrent désormais dans cette alliance. Qu'ils entrent désormais dans cette alliance qui assure une double sécurité. L'alliance avec Jésus qui assure une double sécurité. Seigneur, assure la double sécurité sur la terre et dans les cieux. Merci Seigneur. Tu nous prends en charge à cause de ton grand nom. Au nom de Jésus. Merci Seigneur.